Voilà, chers amis, rebonjour ou bonjour pour les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore. Alors, je suis conscient que l'heure, c'est toujours une heure très critique. Hein. C'est l'heure de la digestion, il y a de la concurrence. Hein. Mais j'ai un ami, quand il doit parler à cette heure, il dit « Voilà, mon travail à moi, c'est de parler. Votre travail à vous, c'est d'écouter. J'espère que vous n'auriez pas terminé votre travail avant que moi, je n'ai terminé le mien. » Donc, ça veut dire... Il faut qu'on essaye de rester ensemble dans la même réunion jusqu'à la fin. Alors, la thématique qui nous rassemble porte sur tenir la route dans un monde en déroute. Et on se base sur la deuxième lettre de Paul à Timothée qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est un patrimoine que Paul, en tant qu'apôtre qui a terminé sa carrière ici-bas, va transmettre au jeune Timothée, à la nouvelle génération. Nous qui sommes parents, qui avons des enfants, on a à cœur de transmettre à nos enfants des valeurs, un capital. Bon, ben, si vos moyens le permettent, gloire à Dieu, si vous pouvez transmettre des valeurs mobilières et immobilières. Mais je suggère qu'il y a un patrimoine moral et spirituel qu'on a à cœur de léguer à la jeune génération. Et l'apôtre Paul est en prison à cause de l'évangile, à cause de sa foi. Et on voit dans son cœur battre une passion, une motivation pour transmettre la flamme à la nouvelle génération. Et ça, c'est encourageant. Alors, on a vu que Paul a parlé de plusieurs choses. Voilà, apparemment, ça n'a pas envie. Même le vidéoprojecteur, il est encore dans la digestion, vous voyez. Il a du mal à... il bug, hein. Bon, mais... Bon, ben apparemment... tu peux actionner la première, voir au moins. Est-ce que si tu appuies sur la flèche... Non, on est vraiment dans la déroute, hein. Bon. Alors, la première chose que Paul a dite à Timothée, récapituler rapidement, Timothée, tu vis dans un monde en déroute. Tu vis dans un monde où l'argent roi fait la loi. Tu vis dans un monde où les gens, ils aiment égo, moi. Ils aiment le plaisir. Ils aiment pas Dieu. Dieu, on le met à la porte. Il n'est pas le bienvenu. Et vivre dans un monde comme ça, où... Il y a de la religion, mais il n'y a pas la foi qui sauve. Ce n'est pas une foi qui change la vie et qui donne l'assurance du pardon des péchés. Et donc, Timothée, tu vis dans ce monde-là. Le deuxième message que Paul fait passer, c'est Timothée, prends et le courage de planter le drapeau, de prêcher l'évangile et de partager ta foi. Et tu dois briller, être une lumière qui brille dans les ténèbres. Et puis le troisième message, c'est Timothée, tu dois être prêt à souffrir pour l'évangile. Ah ben voilà, c'est bon. Tu dois être prêt à souffrir dans un monde en déroute, souffrir pour l'évangile. Et puis le dernier message que Paul fait passer à Timothée, c'est bien finir sa course dans un monde en déroute. Et c'est ce qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Il y a des gens, quand on les interroge au soir de leur vie, ils vous disent d'une manière ou d'une autre, ben, si c'est à refaire, il y a bien des choses que je vivrai d'une autre manière. Seulement la vie, hein, bon, on en a une sur la terre et puis il y en a une après mort. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. La vie sur la terre... on n'en a qu'une et quand on arrive au soir de la vie à tirer un trait au bas de la page, on peut avoir des regrets et il y a des choses, c'est vrai, si c'était à refaire, on les vivrait autrement. Alors moi, j'ai visité des maisons des maisons de retraite, visité des personnes dans les maisons de retraite et franchement, on entend des choses, on voit des choses assez... c'est pas simple, hein. On voit qu'il y a des gens qui ont souffert. On voit qu'il y a des gens qui ont des regrets sur le passé. Parfois, des gens qui s'apitoient sur eux-mêmes, ils ont encaissé des coups dans la vie, et c'est pas évident. On voit des gens, on entend une certaine déception, parfois une certaine frustration. Alors, vous avez des personnes âgées qui vont se plaindre de ne plus voir du tout leurs enfants ou leurs petits-enfants. Il y a du découragement, il y a des blessures. Parfois, il y a des murmures, il y a des plaintes et parfois, il y a même des accusations. Alors, on va lire un texte où on va voir dans quel état d'esprit l'apôtre Paul, qui se sait à l'article de la mort, il sait que ses jours, voire ses heures, sont comptés. Et voilà ces dernières paroles ou ces derniers écrits qui nous sont transmis dans donc, la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 4. Et je vais vous lire les versets 6 jusqu'à la fin de ce chapitre. 2 Timothée 4, et je lis les versets 6 à 22. Et voilà donc ce que Paul écrit. « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Verset 9. « Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Verset 14. « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Verset 18. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul dresse ce qu'on appelle une épitaphe en guise de bilan. Une épitaphe, je rappelle, c'est une inscription qu'on voit sur une pierre tombale. Et on va voir cette épitaphe dont il est question dans les versets 6 à 8. Et puis Paul parle dans les versets 9 à 21 des amis et des ennemis dans le combat. Dans les versets 11 à 13, eh bien Paul, il est spirituel, mais il incarne un visage humain. Et on va voir la spiritualité à visage humain. Et puis dans les versets 14 et 18 à 18, il assume les déceptions, les frustrations, les injustices qu'il a endurées sans rancœur, sans rancune et sans volonté de vengeance. Et puis, à la fin, il va terminer dans les versets 19 à 22, et il va dire, eh bien, finalement et malgré tout, qu'est-ce que j'aime, la famille de Dieu. Une épitaphe en guise de bilan. En général, les dernières paroles des grands hommes qui ont fait l'histoire, elles reflètent la vérité, elles révèlent la nature du personnage, et ce sont des paroles dont il vaut la peine de se souvenir. Sur son lit de mort, Napoléon, le grand Napoléon, il a dit « Je meurs avant mon heure et mon corps sera rendu à la terre afin de nourrir les vers. Voilà le sort imminent qui est réservé au grand Napoléon. » Gandhi, le chef religieux non violent, hindou, il a déclaré à l'approche de la mort « Tout en moi n'est qu'obscurité. Pour la première fois en 50 ans, je me retrouve dans l'abîme du désespoir. Je prie pour la lumière. » Voilà ce que Gandhi a dit peu de temps avant de mourir. Et puis Talleyrand, un homme d'État en France du 19e siècle, quand il est mort, on a retrouvé écrit sur un morceau de papier les paroles qui suivent, de la main même de Talleyrand, cet homme d'État. Il a dit, voici, 83 années d'envolée, que de soucis, que d'agitation, que d'angoisse, que de rancune, que de complications regrettables. Et tout ça, sans d'autres résultats d'une grande fatigue pour l'esprit et le corps, qu'un sentiment profond de découragement par rapport à l'avenir et qu'un regard tourmenté sur le passé. On voit vraiment la différence entre la condition d'une personne qui quitte ce monde et qui meurt sans aucune espérance quant à un au-delà. Quel contraste avec les dernières paroles de l'apôtre Paul. Vous les avez entendues au verset 6, au verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée. » On voit vraiment qu'on n'est pas dans la même, dans le même état d'esprit. Alors, en somme, l'apôtre Paul dit « Eh bien voilà, maintenant, moi, je suis prêt à mourir, je suis prêt à partir. » Au verset 6, il dit « Me voici déjà offert en libation et le moment de mon départ approche. » La libation, c'était une forme de sacrifice. Paul sait qu'il va être exécuté à cause de sa foi et de son amour pour Jésus. Et il a le sentiment que sa vie, elle est offerte en martyr. Et elle constitue le dernier sacrifice auquel Paul va consentir sur la terre. Et puis il dit, le moment de mon départ approche. C'est une très belle image qu'il utilise ici, parce que ce mot départ a plusieurs significations possibles. Le terme qu'il utilise dans l'original évoque au moins quatre choses. Ce mot départ, on l'utilisait quand on voulait expliquer qu'un animal, on le libérait des brancards, du chariot qu'il traînait. Et peut-être que par cette image, Paul veut dire que eh bien maintenant, on va libérer les brancards du chariot qu'il traînait et il va être libéré du poids du ministère qu'il a assumé sur la terre. Ce terme départ évoque aussi le fait de desserrer des liens ou des fers. Et un prisonnier auquel on rendait la liberté, peut-être que cette image, elle évoque le fait que Paul entrevoit sa mort comme une libération du carcan et de l'oppression de la vie et du ministère ici-bas dans le combat spirituel. Et lui qui est en prison, eh bien, il sait que il va être, c'est un passage, et il va être libéré et il va entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, comme dit l'Écriture. Ce mot départ était encore utilisé pour dire qu'un voyageur, un explorateur en mission, qui avait l'habitude de camper, eh bien, il desserrait les cordes d'une tente et il levait le camp. Et il prenait sa toile de tente et il allait explorer, il partait plus loin. Eh bien, peut-être que l'image derrière ce terme départ, Paul l'utilise pour signifier le fait que, après avoir itinéré dans de nombreux voyages missionnaires, dans tout le bassin méditerranéen connu de l'époque, où il a prêché le message de la bonne nouvelle et où il a implanté des églises, eh bien, il va partir et il se prépare à son dernier et à son plus beau voyage. Et enfin, ce terme départ pouvait évoquer le moment tant attendu par quelqu'un qui a le pied marin, quand on larguait les amarres dans le port et quand le bateau pouvait prendre le large sur la Grande Bleue, et le bateau qui allait vers de nouveaux horizons lointains. Et il faut être marin pour sentir l'appel du large et de la Grande Bleue. Mais l'idée peut-être est que Paul maintenant met le cap sur la haute mer pour atteindre sa destination finale. En tout cas, elle est belle cette image. Le moment de mon départ approche. Et Paul savait que le moment était venu pour lui de passer à autre chose. On observe dans les évangiles qui nous relatent la vie de Jésus la même prise de conscience. Jésus n'a pas mené son ministère sur la terre à la merci des événements. Il avait une feuille de route. Il savait que Dieu lui avait confié un projet et tout était bien planifié. Et surtout quand on lit l'évangile de Jean, on a cette indication chronologique qui revient souvent, l'heure étant venue. Et l'évangile de Jean, en tout cas, ne nous présente pas du tout l'arrestation de Jésus comme étant victime d'un guet-apens. Il y a des gens qui pensent, comme les deux pèlerins du chemin d'Emmaüs, que Jésus il avait bien commencé, mais dommage pour lui, ça s'est mal terminé, la belle histoire. Parce qu'il est devenu victime de la trahison de l'un des siens, Judas, et il s'est fait arrêter et il a été crucifié par les Romains avec la permission des Juifs. Et il est mort sur la croix. Et il y a des gens qui pensent, c'est dommage parce qu'il aurait mérité mieux. Mais Jésus n'est pas devenu... il n'est pas tombé dans un guet-apens parce que tout était prévu dans le plan de Dieu. Jésus était né pour mourir sur la croix. Et l'histoire de Noël, que l'on commémore, où on rappelle que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus, eh bien, Noël, c'est une partie de l'histoire, mais la finalité, c'est le Vendredi Saint, où Jésus a été crucifié et il est mort, et le dimanche de Pâques, où Jésus est ressuscité. Et donc ça, c'était dans le cadre du projet de Dieu. Et quand Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi », Paul a le sentiment d'avoir accompli la mission. La feuille de route que son père avait dressée pour lui, eh bien, Paul l'a complètement remplie de A jusqu'à Z. Et Jésus, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix ? Il a dit « Tout est accompli ». Et Jésus, de la même manière, il a rempli de A jusqu'à Z, et parfaitement la mission que son père avait pour lui. Donc Paul partage ce même sentiment, mission accomplie. Et c'est quand même touchant et émouvant de voir des personnes qui marchent avec Jésus et qui aiment Jésus et qui ont le sentiment qu'à un moment donné, eh bien, la mission est remplie, maintenant il faut passer à autre chose et le moment de mon départ approche. Alors Paul, donc au présent, il dit « je suis prêt à mourir ». Et puis quand il jette un regard dans le rétroviseur, il fait le bilan du passé. Et ce bilan, il est positif, puisque au verset 7, « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé foi ». Autrement dit, j'ai rempli ma mission, j'ai rempli le contrat. Alors premièrement, Paul avait le sentiment d'être engagé dans un combat spirituel. Il dit « j'ai combattu ». Ce n'était pas des vacances. Il y a un enjeu spirituel dans le monde invisible. Et pour Paul, son ennemi, c'était le diable qui empêche et qui aveugle les auditeurs de comprendre le message de la bonne nouvelle et d'investir leur confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus. « J'ai combattu et j'ai combattu le bon combat ». Paul ne s'est pas trompé de combat. Il y a tellement de gens qui investissent leur énergie pour des combats, c'était pas l'essentiel. Et franchement, ils ont misé sur le mauvais chameau parce que c'était pas là où il fallait investir tous ces moyens, toutes ces forces. Et c'est triste quand on voit ou quand on entend des personnes à la fin de la vie et se rendre compte que finalement, mais ils sont passés à côté de l'essentiel. où ils se sont trompés de combat. Et c'est triste et c'est frustrant et c'est décevant. Mais Paul n'a pas du tout ce sentiment. Alors, Paul a le sentiment aussi que il a tenu dans la durée. Il dit, j'ai achevé la course. Il a tenu dans la durée et sur la distance. Et il a franchi honorablement la ligne d'arrivée. C'est bien de bien démarrer dans la vie avec Jésus, mais la vie chrétienne sur la terre, c'est pas comme un sprint sur 100 mètres, hein. C'est plutôt un marathon. Il faut tenir dans la durée et il faut tenir sur la distance. Et il y a des gens qui démarrent dans la vie chrétienne, c'est comme une course de Formule 1, ça pétarade de tous les côtés, il y a de la fumée. Mais la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir tenir le rythme, hein? Et Jésus a raconté la parabole du semeur. Il y a la graine qui tombe dans un terrain qui n'est pas tellement favorable ni propice. Il n'y a pas de racines. Au début, la plante germe, mais dès qu'il y a du soleil et que ça chauffe un peu trop fort, eh bien, comme il n'y a pas de racines, eh bien, la plante, elle meurt. Et il y a des gens qui entendent le message de l'Évangile, qui s'en réjouissent sur le coup, mais ils ne laissent pas la graine pénétrer jusqu'au fond et prendre racine. Et dès qu'il y a un souci dans la marche avec Jésus, eh bien, plouf, on arrête là et puis on passe à autre chose. Et il n'y a plus rien qui reste. Donc Paul, lui, il a, par la grâce de Dieu, il a tenu dans la durée. Et il a gardé la foi. Il est resté fidèle et il a persévéré dans la voie du salut. Oui, la vie chrétienne, c'est pas un sprint sur 100 mètres, c'est un marathon. Et ne tombons pas dans la présomption, ne présageons pas du fait que si pour jusqu'à maintenant tout était facile, ça s'est bien passé, sans Christ, on ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Et on a besoin de sa grâce pour pouvoir tenir dans la durée et continuer. Sauvé par grâce, on doit continuer par la grâce. Et on ne peut jamais lever le pied en se disant maintenant c'est bon, je peux me laisser vivre jusqu'à la fin de mes jours. Non. C'est comme dans la bourse, les résultats du passé ne présagent en rien des performances à venir. Et ça, on nous le dit, hein, et on a raison de nous le dire. Eh bien, on peut dire que dans la vie chrétienne, c'est pareil. Et ne soyons pas de ceux qui pensent que bien, jusqu'à maintenant, j'ai plus ou moins tout bon. Maintenant, ça va, c'est réglé comme du papier à musique et c'est gagné jusqu'à la fin. Non. Paul, c'est vraiment. Il est à un moment où il tire un trait au bas de la page et par la grâce de Dieu, sans présomption aucune, il peut dire, j'ai gardé la foi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ajoute que désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Donc là, il regarde, j'ai le sentiment d'avoir rempli le contrat, hein, et puis l'avenir, eh bien, c'est la gloire et la récompense. Donc c'est l'heure du bilan. Paul regarde dans le rétroviseur, il regarde au moment présent, et puis il se transporte dans l'avenir. Voilà le témoignage de foi d'une personne qui a mis de l'ordre dans ses priorités, qui n'est pas passée à côté de l'essentiel et qui a le sentiment vraiment d'avoir rempli le contrat. La Bible parle de toutes sortes de récompenses, de couronnes, couronne de justice, la couronne de la gloire. Alors c'est vrai, nous, protestants évangéliques, on n'est pas trop, on parle pas trop des récompenses parce que on a peur de tomber salut par les œuvres. La récompense, c'est pas la carotte qui devrait faire avancer la diligence. La récompense, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Dieu nous offre l'assurance du pardon de nos péchés. Il nous donne clé en main l'assurance de la vie éternelle. C'est cadeau, c'est gratuit. La Bible appelle ça la grâce. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est un don, un cadeau qui vient de Dieu. Et même le fait de croire que Jésus est mort à ma place et que son sacrifice est suffisant pour couvrir l'étendue et la gravité de mes fautes pour qu'au final je puisse être acquitté à la barre du tribunal de Dieu, et bien même cette foi qui me permet de bénéficier du salut, c'est cadeau. Donc je ne peux pas dire, mais moi je suis meilleur que les autres, et parce que j'étais meilleur que les autres, Dieu l'a vu, et donc il m'a donné le salut à moi parce que je le méritais. Aucune question de mérite. Et c'est là où l'évangile que nous annonçons se distingue de toutes les autres religions. Parce que dans n'importe quelle religion, à la question « comment puis-je être sauvé ?»« Comment savoir si mes péchés sont pardonnés ?»« Comment avoir l'assurance de la vie éternelle ?» Toutes les religions vous répondent « il faut faire quelque chose pour pouvoir le mériter. Il faut payer. » Parfois, il y a même dans certaines religions, on vous dit « il faut donner de l'argent ». Et parfois, il y a des religions qui ont dit « plus vous donnez d'argent à l'église, plus vous aurez une place au soleil dans le ciel. Ben, » ce n'est pas du tout ce que l'évangile enseigne. Parce que la Bible affirme que, un, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés, ça veut dire déclarés justes ou acquittés à la barre du tribunal de Dieu en raison de leur foi. Et la foi, c'est un cadeau que Dieu nous donne. En somme, la foi, c'est la poignée qui nous permet de nous saisir de la valise du salut. Non seulement le salut, c'est cadeau, la valise, c'est cadeau, mais la poignée, ça fait partie du cadeau. On ne peut pas dire, non, mais c'est grâce à moi, j'ai trouvé la bonne poignée, donc je peux prendre la valise. Non. La valise du salut, elle inclut le salut, c'est cadeau, et puis la poignée, c'est la foi. Et la foi, la poignée comme la valise, la foi qui sauve comme le salut, c'est cadeau. Ça veut dire que c'est gratuit pour celui qui en bénéficie. Mais quelqu'un a dû payer la facture. Et c'est Jésus qui a payé la facture à ma place. Et il n'y a que dans l'évangile que la parole de Dieu nous révèle que l'on trouve cette vérité. Unique. On ne la trouve nulle part ailleurs. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, venez sans argent, sans rien payer. Venez aux eaux, pas aux eaux, hein, mais aux eaux, l'eau vive qui fait vivre. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur. Et ça, c'est la grâce et c'est le cadeau de Dieu. Et donc l'apôtre Paul, il est affirmatif, et certains pourraient dire, ah non, mais attendez, mais pour qui il se prend là? Il est présomptueux. Quand on partage l'évangile avec nos contemporains, parfois on leur pose une question, c'est vrai, un petit peu hard, mais de façon respectueuse, on leur dit, mais si en sortant de notre entretien, vous traversez la route, vous vous faites renverser par une voiture, vous passez de cette vie de l'autre côté, pas de l'autre côté de la rue, mais vous mourrez, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? Bon, c'est vrai que c'est une question un peu hard, hein, on ne la lit pas en première page du Parisien, hein. Alors en général, les gens vous disent, ben j'espère, ou ben je voudrais bien. Il y en a qui vont vous dire, oh, ben de toute façon, je pense que Dieu, il va sortir une balance, il va mettre mes bonnes œuvres dans un plateau, et puis mes mauvaises œuvres dans l'autre, et puis ben, je touche du bois, hein, et il faut prier pour que les bonnes œuvres pèsent plus lourd que les mauvaises, et puis que ça emporte le morceau. Ben ça sera dans la petite tête de certaines personnes, mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne, hein. Parce que même s'il y avait une seule mauvaise œuvre dans un plateau de la balance, eh bien, ça suffit pour faire de moi un condamné. Parce que Dieu est fait, aucune trace de péché chez lui, et il ne peut pas tolérer le péché et donc le pécheur. Et la bonne nouvelle, c'est que... La bonne nouvelle pour moi, c'est que même s'il n'y avait eu que moi qui suis coupable sur toute la terre, Dieu aurait quand même envoyé Jésus pour mourir à ma place. Et on a raison de dire que c'est vrai qu'historiquement, ce sont les Juifs qui ont livré Jésus à l'occupant romain, parce que les Juifs ne pouvaient pas mettre à mort quelqu'un sans l'autorisation du pouvoir romain qui occupait la Palestine de l'époque. C'est vrai dans ce sens que ce sont les Juifs, les autorités religieuses juives qui ont livré Jésus à l'occupant romain pour être crucifié. Mais on a raison d'affirmer qu'en réalité, qu'est-ce qui a cloué Jésus à la croix? C'est mon péché. Et si j'avais été le seul pécheur de tous les lieux de temps, Dieu aurait quand même envoyé Jésus pour endosser ma culpabilité. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que moi qui suis coupable, eh bien, à cause de Jésus, qui était innocent, il a accepté d'être traité comme un coupable pour que le coupable que je suis puisse être traité comme un innocent. Et là, Paul dit, le juste juge au dernier jour me décernera la couronne, non pas en vertu de mes mérites, mais en vertu de la grâce de Dieu. Et donc, pour dire ceci, pour dire cela, c'est que par la grâce de Dieu, l'assurance du pardon de mes péchés, ça vient pas, ça dépend pas de moi, mais ça dépend de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas de la présomption que de dire, bien, moi, par la grâce de Dieu, si je dois mourir, je suis prêt à rencontrer Dieu parce que Jésus a couvert mes péchés par son sacrifice. Et ce n'est pas une de la présomption de ma part, ce n'est pas parce que je me sens supérieur aux autres, non. Mais la Bible, elle affirme, dans la Bible, c'est écrit, celui qui croit, il a la vie, celui qui ne croit pas, n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Il engage son honneur et sa crédibilité, et donc je ne puis que lui faire confiance. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait avoir cette assurance, cette garantie. Et encore une fois, c'était pas de la présomption, mais c'était de la confiance dans les promesses de Dieu. Et Paul dit, je sais qu'une couronne m'est réservée. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui connaît Jésus, à l'approche de la mort, eh bien, il demeure confiant. Et soyons clairs, quand une personne qui aime Jésus et qui marche avec Jésus, qui a l'assurance que ses péchés sont pardonnés, elle quitte cette terre, bien sûr, c'est tout bénéfice pour elle. Et Paul lui-même le disait quand il écrivait aux Philippiens, il préférerait partir et être avec le Seigneur, ce qui est du coup le meilleur. Mais il ajoute, s'il faut que je reste encore parmi vous pour votre bien, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. Et évidemment, quand on perd un être cher qui aime Jésus, c'est tout bénéfice pour lui. Le plus difficile, c'est pour ceux qui restent. Et bien sûr que là, on doit penser à notre frère Roger, qui vient de perdre son épouse, Elvire. Et bien sûr, il faut que la grâce de Dieu au quotidien puisse restaurer et encourager. Mais bien sûr que pour ceux qui restent, c'est le défi. Alors Paul, il fait un bilan de sa vie. Franchir honorablement la ligne d'arrivée quand on vit dans un monde en déroute. La vie, elle est faite de relations. On l'a déjà dit. Les relations personnelles, c'est le capital le plus précieux qu'on ait à gérer sur la terre. Nos relations personnelles, quand elles sont bien adaptées, elles procurent les satisfactions les plus satisfaisantes de l'existence. Par contre, ces mêmes réactions, quand elles sont maladées ou en souffrance, eh bien, elles induisent les frustrations les plus cuisantes. Et la vie, elle est faite de relations. Quand on va, comme a bien dit quelqu'un, on n'a jamais vu quelqu'un quitter ce monde suivi d'un camion de déménagement. Dans le sens que on ne va pas emmener dans la tombe tout ce qu'on a pu accumuler dans son compte en banque. Et pourtant, il y a des gens qui ne se préparent pas ou qui pensent que, eh bien, ils vont pouvoir tout emmener. Hein. Il y a des civilisations où on enterrait avec les morts le bien matériel. Vous imaginez que les tombeaux ont été visités. Hein. Et c'est délicat, hein. C'est dangereux. Hein. Bon, c'est un autre message, c'est un autre sujet. D'où l'importance encore de, j'allais dire, de miser au bon endroit. Hein. Et Jésus a bien dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où la rouille et les voleurs peuvent vous faire bien de misère, mais amasser des trésors dans le ciel. Et là, aucun voleur, aucun... Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'au ciel, on n'a pas besoin de payer une prime d'assurance, hein, parce que c'est bien... Ce qui est investi dans le ciel, c'est bien gardé, ça va nous suivre. et personne ne pourra léser notre droit. Alors Paul va faire le bilan de ses relations. Et c'est vrai que, vous savez, on fait un contrôle technique avec nos véhicules tous les 4 ans, hein, avec une neuve, et puis après tous les 2 ans, c'est une bonne chose. C'est intéressant de faire un bilan de notre vie personnelle de temps à autre. Alors parfois, on attend le 1er janvier. Bon, ce n'est pas nécessaire d'attendre le 1er janvier. Mais au niveau bilan relationnel, où sont mes amis? Où sont ceux qui ne sont pas mes amis? Bon, la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne devrait pas avoir d'ennemis pour autant que cela dépend de lui. Un chrétien ne devrait jamais être le premier à déclarer la guerre. Maintenant, le fait d'être chrétien, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit que le membre du royaume de Dieu, c'est un artisan de paix, mais tout le monde ne veut pas la paix avec un chrétien. Et on le sait, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Et aimer Jésus, c'est parfois devoir payer le prix fort. Et Paul va faire le bilan de ses relations et il va observer que, eh ben, il y a des amis et puis il y a des ennemis. Alors, je passe rapidement, il parle d'un déserteur. Un déserteur, c'est quelqu'un qui a quitté l'équipe. Alors, pendant un temps, Démas, il était dans l'équipe de Paul et puis après, vous savez, il y a des gens qui sont opportunistes, hein. Quand l'équipe gagne, eh ben, on reste on reste dans le bateau. Et quand l'équipe perd, quand on sent que le bateau il prend l'eau, bye bye et hop là, on va. Voilà. Ça me rappelle un film. Il y avait quelqu'un qui faisait de l'autostop et il y a un automobiliste qui le prend. Et puis 10 minutes plus tard, la voiture tombe en panne. L'autostoppeur il descend. Et dit, bon ben au revoir. Hein. Puis il cherche une autre voiture. Hein. Bon ben voilà. Crescens, on n'a pas beaucoup d'informations. Tite, le disciple illustre et fidèle, il en est question dans le Nouveau Testament. Alors c'est intéressant, je vous ai dit ce matin que la plupart des compagnons de Paul l'ont abandonné au moment où il avait le plus besoin de leur soutien. C'est quand même cruel, hein. Et comme on a dit ce matin, il y a des gens, vous pensez qu'ils sont dans votre équipe, mais quand le vent tourne, eh bien ils changent d'équipe. Ou alors ils marquent carrément des buts contre leur propre camp. Aïe, aïe, aïe. Et poignarder dans le dos, ça fait mal. Alors, lui, c'était un des rares qui est resté dans l'équipe avec Paul. Même alors que Paul était en prison, ce n'était pas populaire de dire « Moi, je fais partie de l'équipe de Paul, je suis son compagnon. » Mais Luc a tenu bon. Et en plus, Luc était médecin. Le livre des Proverbes dit qu'un ami, il aime en tout temps. Ça veut dire quand le soleil brille comme quand il pleut. Bon, ben en Afrique, le soleil il brille un peu plus souvent qu'ici à Paris. Mais un véritable ami, ben c'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Ça fait une sélection naturelle. Hein. C'est là où l'on voit ceux qui sont intéressés et ceux qui sont loyaux et qui. Hein, la fidélité dans l'amitié, il y aurait des choses à dire. Eh bien, Luc était un de ceux-là et il a accompagné l'apôtre Paul. Et on imagine le fait d'avoir plus qu'un médecin, un frère. Médecin et frère. À ce moment si critique, waouh, ça devait être un bol d'oxygène pour Paul. Le petit Jean, surnommé Marc, vous savez, Paul, c'était, il y avait eu un différend avec Barnabas, on lit ça dans Acte 15, quand il avait fallu partir pour le deuxième voyage missionnaire. Le petit Jean surnommé Marc, il fallait suivre l'apôtre Paul. Hein. Vous savez, il y a des gens, c'est pas évident. Hein. C'était le général Bijard de l'Évangile. Hein. C'était un peu marche ou crève. Hein. Et le petit Jean surnommé Marc, il n'avait pas tenu les rigueurs du combat spirituel. Et quand il a fallu partir dans le deuxième voyage missionnaire, Paul il a dit, lui, j'en veux pas dans mon équipe, hein, parce qu'il va pas voir la fin de la demi-journée, et je veux pas traîner des boulets dans mon équipe. Le maillon faible, j'en veux pas. Et il y a eu un dissentiment, il y a eu un différend, un conflit. Barnabas a dit non, moi je crois en lui, je mise sur lui et son futur ne manque pas d'avenir. Moi je le prends dans mon équipe. Bon, la bonne nouvelle dans Acte 15, c'est que ce conflit entre Paul et Barnabas, il a eu un effet positif, c'est qu'il a multiplié par deux l'équipe missionnaire. Bon, trop souvent l'Église... Il y a des gens qui pensent que la croissance de l'Église, c'est la croissance par la division. Ben, dans le livre des Actes, la croissance, c'est quand même par la multiplication, hein. Il faut quand même pas se tromper de signes, pas seulement en mathématiques. Mais le petit Jean surnommé Marc, eh bien attendez, faut pas mépriser les petits commencements. Peut-être qu'il a eu un moment, il a eu un peu de mal, mais ce petit Jean surnommé Marc, eh bien, il a fait ses preuves. Et c'est lui qui est devenu l'auteur de notre deuxième évangile, l'évangile de Marc, un fidèle de l'apôtre Pierre. Et puis, on sait qu'entre Paul et Marc, eh bien, il y a eu une reconnexion. Et Paul signale son ami qui lui est précieux. Il a eu un moment de passage à vide, mais voilà. Ben, la leçon de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas coller une étiquette sur le front des gens. Parfois, on voit des gens, ils sont peut-être dans une mauvaise passe. Ils passent un moment difficile. Et peut-être qu'on se dit, oh là là, son futur manque d'avenir, c'est grillé pour lui. Il n'y a plus qu'à regarder dans le rétroviseur, il n'y a plus de pare-brise, il n'y a pas d'horizon, c'est fini. Eh ben non. Et quelqu'un a dit, quand Dieu nous regarde, il regarde pas seulement la personne que nous sommes à l'instant T, mais il voit en nous la personne que nous pouvons devenir par sa grâce. Et ça, c'est encourageant, hein. Nous qui avons des enfants, parfois. Moi, j'ai 5 enfants et quand les enfants étaient plus jeunes, j'avais l'impression que parfois que être parent, c'est faire de la répression policière. T'as fait tes devoirs, t'as brossé tes dents, t'as rangé ta chambre. Bon, c'est un peu la loi, ça, hein? Et il faut quand même l'amour et la grâce. Mais Dieu merci, notre Père céleste, il fait pas comme ça avec nous, parce que qui pourrait subsister? Mais on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, et quand on goûte à la grâce de Dieu, eh bien, on la communique et on l'offre aux autres. Malheureusement, on ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas reçu. Mais en tout cas, la grâce dans les relations, c'est comme l'huile dans un moteur, ça fait toute la différence. Et donc, il est question encore d'autres personnes. Et là, on va y revenir. L'apôtre Paul va mentionner quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal. Et puis d'autres personnes. Et puis bien sûr, il mentionne Christ le Seigneur et des amis fidèles et des amis. Voilà. Alors moi, ce qui m'impressionne chez ce grand personnage, l'apôtre Paul, c'est que il est spirituel, mais il sait rester humain. Et je trouve que dans nos milieux, on a souvent beaucoup de mal à conjuguer notre humanité ou notre féminité avec la véritable spiritualité. Et on donne à penser que on doit choisir entre être spirituel ou rester humain. Mais on a beaucoup de mal à faire les deux ensemble. Et là, moi, je trouve que ce grand apôtre Paul, ce grand monsieur, il nous donne une belle leçon de spiritualité ou d'humanité qui intègre la spiritualité, ou de la spiritualité qui se conjugue avec son humanité. Voilà ce que dit Paul au verset 11. Alors, verset 10, il dit: Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique et Crescens s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Verset 11. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Alors Paul, il est en train de dire ici qu'il a besoin des autres. Moi, je trouve que ça, c'est un indice qui nous montre sa véritable humanité. On pense parfois, on met sur un piédestal les grands hommes de Dieu et on pense qu'ils sont au-dessus de la médiocrité internationale. Ils surfent sur une vague où nous, on est vraiment en dessous du niveau complètement. Mais Paul, vous imaginez, dans la solitude de sa prison, il reconnaît son besoin d'être en relation avec des personnes qui ne soient pas toxiques, des personnes qui vont lui faire du bien. Et il sait exprimer ce besoin. Et moi, je dis chapeau. Parce que nous, parfois, on vit dans le déni de notre humanité ou de notre féminité. Et on pense que être spirituel, c'est négliger ou passer sous silence des besoins légitimes de notre personne. Pensez à Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, tout Dieu fait homme qu'il était, Jésus, dans son humanité, la Bible nous enseigne, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a expérimenté toutes les émotions que nous expérimentons. Jésus a eu faim, il a eu soif, il a ressenti des émotions. Quand il s'est retrouvé devant le tombeau de son ami Lazare, il a pleuré. Quand on dit dans notre culture qu'un homme, ça pleure jamais, c'est une grosse bêtise. D'ailleurs, les psychologues disent que les femmes, il y a deux choses qui les aident à tenir dans des situations difficiles. Un, faire du lèche-vitrine, ça c'est un autre message. Et deux, c'est que les femmes, elles savent pleurer, elles savent exprimer leurs émotions. Ben, les hommes qui pleurent jamais, la question à savoir, c'est qu'est-ce qu'ils font avec leurs émotions ? Est-ce qu'ils les mettent dans le réfrigérateur à moins 33 degrés ou je ne sais pas ? Parce que les émotions, on ne peut pas les congeler. Et d'une manière ou d'une autre, il faut les assumer. Et on sait tous que des émotions refoulées, à l'intérieur, ça peut nous jouer des tours. Et ça peut produire ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ça se répercute dans un autre domaine et ça a une incidence au niveau du métabolisme, de notre manière de fonctionner, dans notre constitution humaine. Donc être humain, rester humain. Et Paul dit, eh ben moi j'ai besoin des autres. Dans l'église, c'est triste quand on voit des gens qui considèrent que chacun est comme Robinson Crusoe tout seul sur son île. L'être humain, il a besoin de savoir qu'il appartient à un groupe communautaire. Déjà, qu'on appelle le premier groupe communautaire, c'est la famille. Et on sait tous ce qu'un adolescent qui n'a aucun sentiment d'appartenance à une communauté familiale, on sait tous de quoi il peut se rendre capable. Parce que ce qu'il n'a pas trouvé dans la famille, il va le chercher dans la rue, auprès des copains, dans la tribu. Rien à voir avec la tribu africaine, on est bien d'accord. Et y a des jeunes qui n'ont plus de contact avec la famille, ils vont se retrouver avec d'autres jeunes qui leur ressemblent dans la rue, et puis ils vont rien trouver de mieux que de voler les véhicules des forces de l'ordre et puis s'amuser à faire le coup du bélier en défonçant la vitrine du commissariat de police. Et puis ils développent un code, il y a un langage, une façon de s'habiller, et puis il y a une façon de se comporter, et on se retrouve, qui se ressemble s'assemble, c'est la nouvelle tribu. L'être humain a besoin de savoir qu'il appartient à un groupe. Et déjà, dans le monde animal, c'est évident. Les animaux ont bien compris que quand on voit des bancs de petites sardines, ils ont compris dans leur petite cervelle de sardine que l'union fait la force. Et quand il y a les prédateurs, ça va pas passer, mais ça va pas casser partout. Et il va en rester quand même après. Donc, Paul dit, moi, j'ai besoin des autres. On vit dans un monde anonyme, dans un monde où l'être humain, il est un matricule, il est un numéro, ça se déshumanise. Et moi, je trouve que l'Église de Jésus-Christ, telle que le Nouveau Testament nous la présente, c'est une famille où il fait bon vivre. La bonne nouvelle, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ, je dois avoir le droit de venir tel que je suis, et quelles que soient les valises que je porte. Et je ne parle pas d'une valise avec une poignée physique, mais avec mon bagage de vie. Et la porte de l'Église de Jésus-Christ, elle doit être ouverte à n'importe qui. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je viens dans l'Église de Jésus-Christ, là où la grâce de Dieu, elle est offerte, elle se vit et elle s'offre, eh bien, je dois pouvoir repartir avec des valises un peu plus légères. Si je ressors avec des valises encore plus lourdes que quand je suis entré, il y a vraiment un problème et l'aiguille est dans le rouge. Et là, on ne parle plus de la grâce de Jésus-Christ et de l'amour de Dieu. Mais donc, j'ai besoin des autres. Et dans la famille de Dieu, chacun doit trouver sa place. Et la famille de Dieu ne sera pas ce qu'elle doit être si moi je n'y suis pas. J'ai besoin des autres parce que les autres ont quelque chose à m'apporter, mais moi aussi j'ai quelque chose à leur apporter. Malheur à celui qui est seul, comme dit l'Ecclésiaste, parce que si l'un tombe, qui va le relever? Et moi qui aime les documentaires animaliers, les félins prédateurs ont vite fait de repérer une bête isolée. Et bien sûr, ils vont s'attaquer sur un animal chétif, malade ou isolé. Donc, Paul dit en somme, je suis seul avec Luc et j'ai besoin de toi. Il est sensible, il reconnaît sa vulnérabilité. Et moi, je trouve que ça, c'est une marque de spiritualité. Et puis, au verset 13, il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Je rappelle que le cachot où, dans lequel était confiné l'apôtre Paul, il n'y avait pas la climatisation, il n'y avait pas le chauffage central, il n'y avait pas un canapé cuir pleine fleur avec une télécommande pour zapper sur les chaînes du satellite. Et Paul dit, j'ai froid. Là encore, moi, je me suis longtemps demandé, mais pourquoi ce petit détail dans notre Nouveau Testament, qu'est-ce que ça vient faire? Mais ce n'est pas par hasard. Parce que l'apôtre Paul, il sait exprimer ses besoins légitimes, même au plan physique. Savoir mettre des mots, M-O-T-S, sur ses mots, M-A-U-X, c'est faire preuve de maturité. Il y a bien des gens qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Et parfois, les femmes, dans certains domaines, elles ressentent très fortement les choses, mais elles ont du mal à les exprimer ou à les communiquer dans des mots que le mari, en général, rationnel, il arrive à décoder et à comprendre, 5 sur 5. Et parfois, les épouses, elles pensent que ce qui est évident dans leur tête, ce qui est tellement clair pour elles, bah, ça devrait être tellement aussi clair pour leur mari. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Et parfois, bon, ben, il y en a qui pensent, ben, il y en a qui sont vraiment bouchés à l'aimerie, hein. Mais voilà, on n'est pas fait de la même manière et, entre parenthèses, ça c'est une des grosses erreurs que bien des conjoints commettent, c'est de penser que ce qui est évident dans ma tête chez moi, ça doit être évident de la même manière chez lui ou chez elle. Bon, je ferme ma parenthèse et vous aurez compris que parfois ce qui est entre parenthèses, c'est aussi important que ce qui est hors parenthèse. Je vous aurais prévenu. Mais donc Paul, il arrive à exprimer ses besoins légitime de la bonne manière. Ça fait 38 ans que je suis marié avec mon épouse et je me souviens qu'au début de notre mariage, ma femme, elle avait du mal à exprimer certaines choses. Et c'est parfois quand elle était très frustrée et qu'elle se mettait en colère après moi que ben moi, ça me donnait envie de sortir de la pièce. Mais je sortais de la pièce et j'écoutais derrière la porte ce qu'elle disait. Parce que je savais que dans la colère, elle disait des choses qu'elle ressentait et certainement il y avait du vrai et moi je cherchais la pépite parmi les scories. Et je me disais, bon ben là, il faut bien décoder, hein, il faut bien enlever, mais qu'est-ce qu'il y a de bon à tirer pour que tu en prennes de la graine? Mais moi, ce qui m'impressionne chez Paul, c'est que oui, il arrive à mettre des mots, M-O-T-S, sur ces mots, M-A-U-X. Dire les choses comme elles sont. Chapeau, monsieur Paul. Parce que là, au moins, on sait. Bon, je sais, il y a des conjoints, parfois, c'est frustrant parce que. Bon, il y a un livre qui s'appelle Les opposés s'attirent, et le satire s'est rayé, et c'est écrit s'attaque. C'est écrit par un couple. Et dans ce livre, le couple dit que les différences qui nous ont attirés au départ, si on n'arrive pas à bien les conjuguer après une fois qu'on est marié, eh bien, elles vont finir par nous séparer. Et ça va faire la guerre. Et d'où l'importance de bien gérer les différences. Et parfois, par exemple, une personne qui est extravertie, qui parle beaucoup, elle va être très impressionnée par une personne qui ouvre la bouche une fois tous les 36 du mois, hein. Et quand elle dit quelque chose, il faut sortir un bloc-notes et il faut prendre des notes. C'est presque comme quand il y a une éclipse de soleil avec la lune, c'est une fois tous les 360 ans, hein, voyez. Alors au début ça impressionne, cette différence. Waouh, cette personne, oh, qu'est-ce qu'elle est zen, elle est au-dessus de la mêlée, vraiment je l'envie. Mais après, quand on vit au quotidien avec une personne comme ça, et ah oui, on ne sait pas ce qu'il pense, on n'arrive pas à comment lui tirer les vers du nez, c'est pas évident à vivre, hein. Mais quand la personne arrive à exprimer ses besoins légitimes, ses émotions, ben ouh, on sait mieux comment y répondre. Mais en tout cas, l'idée, c'est que être spirituel, c'est aussi dire de la bonne manière, j'ai froid. C'est, ça mange pas de pain, hein, mais finalement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et puis, Paul va dire encore, un bon livre me fait du bien. Regardez à la fin du verset 13, il dit, et apporte les livres, surtout les parchemins. Alors, on ne sait pas de quoi il parle exactement. Peut-être que c'est des manuscrits, des textes de l'Ancien Testament qui étaient en circulation déjà, bien sûr, au temps de Paul. Ou peut-être est-ce que c'est des livres qui pouvaient le réconforter moralement et spirituellement. Alors moi, je ne vais pas faire l'article. Hein, je ne vous dis pas ça pour que vous achetiez des livres. Hein, ce n'est pas ça. Mais... un bon livre, je pense que c'est bon pour le moral. Hein. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à lire. Je sais qu'on vit à une époque où c'est les images, c'est les films, c'est les vidéos. J'espère que vous prenez le temps quand même de lire la parole de Dieu, parce que ça, c'est fondamental. Mais aussi lire un bon livre qui va vous booster, vous renouveler. Et ça peut être un bon cadeau d'anniversaire. Ça dure plus longtemps qu'une boîte de chocolat. Et, ou qu'un cadeau surprise qui va être rangé dans le placard. Et Paul, vous imaginez, quand on est dans cette situation, on a besoin d'élargir son horizon. Moi, je suis impressionné de constater, il y a des papis et des mamies, à 70 ans passés, ils apprennent encore des langues étrangères. Il y en a qui prennent des cours de japonais, il y en a d'autres qui vont à la fac pour suivre des cours des beaux-arts. Mais moi, je me dis, mais la sécurité sociale, elle a du souci à se faire avec des gens comme ça parce qu'ils vivent longtemps. Hein. Ceux qui stimulent leur ménage, ceux qui ne font pas travailler leur ménage, qui regardent pendant 2h30 ou je ne sais pas combien la télé et qui gobent tout ce qui passe, ils ont moins de chances de vivre plus longtemps. Bon, je ne suis pas payé pour le dire, mais je ne suis pas docteur non plus. Mais enfin, j'essaye de garder les yeux en face des trous. Donc Paul dit, mettre des mots sur ses mots, exprimer ses émotions, exprimer ses besoins, reconnaître que j'ai des besoins physiques légitimes, j'ai froid, un bon livre me fait du bien. Moi, je trouve que ça, c'est la spiritualité qui intègre la véritable humanité du personnage. Et n'oublions pas que Dieu s'est fait homme. Ça veut dire que Dieu considère que être homme ou être femme, d'abord, il nous a créé à son image, il ne faut pas oublier, et le meilleur représentant de l'être humain sur la terre, le meilleur représentant de Dieu sur la terre, c'est l'être humain créé à son image, l'homme et la femme, et le Fils de l'homme par excellence, Jésus, Dieu fait homme. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'autres idoles. Et une idole, c'est blasphématoire, parce que ça se substitue à la seule image de Dieu qui est recevable, à savoir l'homme que Dieu a placé sur la terre et le Fils de l'homme par excellence. Paul est humain, il est spirituel et humain, et il va assumer les déceptions et les injustices sans rancœur. Quand on parle avec les personnes d'un certain âge et qu'elles reviennent sur le passé, alors oui, parfois il y a des regrets, mais il y a aussi, en général, les personnes ont encaissé, j'allais dire, des blessures de guerre. Elles ont pris des coups. Surtout quand on est impliqué dans le combat spirituel, ce n'est pas le club méditerranéen. Hein. Et vous imaginez que Paul, c'est un vieux routard de la foi. Il a des heures de vol, il a des kilomètres au compteur, et il a connu des situations qu'on souhaite à personne. Ça fait partie du lot, hein, quand on tire un trait au bout de la page et qu'on fait le bilan de sa vie. Il y a des choses qu'on regrette et il y a des épreuves de la vie qu'on a dû encaisser. Et moi, je suis impressionné de voir comment Paul réagit à ce qu'il a dû encaisser. Assumer les déceptions et les injustices sans rancœur. Versets 14 et 15, voilà ce qu'il dit. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Alors vous remarquerez que l'apôtre Paul, il s'en tient à ce qui est factuel. Il parle simplement les événements, ce qui a eu lieu. Il n'entre pas dans les détails, il dit les choses. Il ne vit pas dans le déni. Il dit, voilà, moi, il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, c'est Alexandre. Il ne vit pas dans le déni. Il reconnaît les choses. Et j'allais dire, il les assume. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a aucune volonté de vengeance. Parce que, qu'est-ce que dit Paul ? C'est le Seigneur qui lui rendra selon ses œuvres. Il ne dit pas, eh bien, je prie que le Seigneur lui rende au double de la monnaie de sa pièce, hein. Je trouve la même logique chez, chez David. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, le roi David qui était persécuté, pourchassé par le roi Saül, qui voulait l'éliminer. Et à au moins à deux reprises, David aurait pu faire qu'une seule bouchée de Saül. Mais David a dit, loin de moi de mettre la main sur celui que l'Éternel a choisi. Et David, en somme, c'est comme s'il disait, c'est Saül me fait du mal, mais ce n'est pas à moi de rendre le mal pour le mal. C'est Dieu qui est mon juge. Et je remets à Dieu le soin de gérer mon dossier. Eh bien là, chapeau, on est dans la cour des grands. Et l'apôtre Paul, c'est la même chose. Pas de vengeance personnelle, pas de volonté de... Il n'y a même pas de l'amertume, ni de la rancune. De la blessure, oui, mais pas de rancune ni d'amertume. Parce que moi... je laisse à Dieu le soin de gérer le dossier. Et la Bible dit, David a dit lui-même, mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel qu'entre les mains des hommes. Mais dès lors qu'il est question du Dieu juge, eh ben je peux vous dire que quand on tombe sous le coup du Dieu juge et juste, eh bien le verdict ne va pas faire des heureux, parce que ça va être sévère et ça va être sérieux. Et il faut laisser à Dieu le soin de gérer notre dossier. C'est pas à nous de nous venger. Ça nous évite d'attraper un ulcère à l'estomac, parce que la rancune et l'amertume, ça vous ronge de l'intérieur. Et je dirais même que ça enfonce encore davantage les finances de la sécurité sociale dans le trou, parce que la rancune et l'amertume, ça n'allonge pas la vie, mais ça la raccourcit, ça la complique. Et après, on ne trouve plus le sommeil et il faut prendre du Temesta ou je ne sais pas quoi encore pour pouvoir dormir le soir. Il n'y a pas besoin là encore d'être grand docteur. Mais voyez, ce que la Bible nous dit, c'est le plus économique au plan financier. C'est le plus sûr en termes de résultats, mais c'est le plus difficile à mettre en pratique. Mais avec l'aide de l'action du Saint-Esprit, eh bien... on peut dire non à la rancune, non à l'amertume, non à la vengeance. On s'évite un ulcère à l'estomac et on évite aussi d'empoisonner l'existence de tout notre entourage immédiat. Et puis Paul, avec beaucoup de réalisme, il dit « Tous m'ont abandonné, mais le Seigneur reste avec moi. » Et si vous relisez ces mots, encore une fois, il n'y a pas de trace d'amertume ni de rancune. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qui ne leur en soit pas tenu compte ? Ça fait penser à Jésus sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Étienne, le premier martyr de la foi chrétienne, dira la même chose. Et Paul ici dit « Mais qui ne leur en soit pas tenu compte ?» Verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Autrement dit, Paul dit, finalement, quand je regarde dans le rétroviseur, « Oui, ceux que je croyais être dans mon équipe, ils m'ont abandonné, ils m'ont lâché, mais le Seigneur ne m'a pas lâché. » Combien de personnes jettent le bébé avec l'eau du bain en disant, « L'Église, les chrétiens, mais attendez, après ce qu'ils m'ont dit, après ce qu'ils m'ont fait, non merci, l'Église, je mets une croix dessus. » Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes dans la nature qui ne sont pas fâchées avec Dieu ou avec Jésus, mais les chrétiens, non merci, ce n'est plus leur tasse de thé. Je ne juge pas, je dis que c'est très regrettable, je comprends peut-être la souffrance que ces personnes ont pu endurer, rien n'est parfait en ce bas monde, mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est là où je vais terminer, et moi ce qui m'impressionne, c'est Paul, après tout ce qu'il nous dit, malgré tout ça, lui il aurait pu jeter le bébé avec l'eau du bain. Il aurait pu dire, Dieu d'accord, La Bible, oui, c'est la parole de Dieu. Jésus, ok, mais l'Église et les chrétiens, non merci. Eh ben non. Parce que au final, il dit, ben moi finalement, qu'est-ce que j'aime ? La famille de Dieu. Verset 19, il dit, salut Prisca et Aquilas et la famille de Nésiphore. Eraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Bulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Vous savez, quand on aime Jésus, on aime son Église. Amen. Si tu dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu crois que la Bible elle est la parole de Dieu, si tu dis que tu crois que Jésus est ton sauveur, qui est mort, ressuscité, pour que tu aies l'assurance du pardon de tes péchés, si tu dis tout ça, tu ne peux pas dire l'Église non merci et les chrétiens non merci. Malgré les frustrations, malgré les déceptions, et on est bien d'accord, tout chrétien qu'on peut être, on peut décevoir d'autres frères et sœurs dans la foi. On n'a pas 10 sur 10 dans toutes les matières. Et on pourrait écrire des livres sur des chrétiens qui ont été profondément déçus par des personnes qui se disaient chrétiennes, mais qui ne se sont pas comportées comme des chrétiens authentiques. Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'autre, parce que Dieu, il n'est pas comme ça. Et c'est triste quand la vie des chrétiens elle ne reflète pas le véritable visage de Dieu. Et là, on doit s'humilier. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que Paul, il y a des blessures, oui. Il a subi des injustices, oui. Mais aucune trace d'amertume, aucune trace de rancune. Et Jésus, quand on lit les récits dans les évangiles de sa mort sur la croix, Jésus a été la personne qui a subi la plus grande injustice dans toute l'histoire de l'humanité. Et chez Jésus, vous ne trouverez aucune trace de rancune, d'amertume, aucune volonté de vengeance. La Bible dit qu'il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie et qui s'est laissé traiter d'une manière ignoble, au point d'être traité comme pire qu'un esclave. Il s'est abaissé jusqu'à la mort, et la mort du pire des criminels, la mort sur la croix. Et chez Jésus, aucune trace de révolte, aucune volonté de vengeance. Lui qui a subi la pire des injustices, tu as pu dire que ta volonté soit faite, tout est accompli. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et je trouve chez Paul cette même attitude. Mais vous imaginez que quand on termine sa vie dans un tel état d'esprit apaisé, mais ça change la vie. Et là, on est dans la cour des grands. Et M. Paul nous donne une grande leçon avant de tirer sa révérence. Et on peut dire chapeau, M. Paul, parce que on peut être spirituel tout en restant humain. On encaisse des coups, on prend des coups. On est parfois victime d'injustice. Mais ça, c'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec tout ça. Dieu reste Dieu, et c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit dans sa personne ou dans sa nature. Et il faut être objectif et rétablir l'équilibre. Bien terminer sa course dans un monde en déroute. Alors, je suis loin de dire que et de prétendre que les chrétiens sont meilleurs que les autres. C'est pas ça. Nous, les enfants de Dieu, on peut être capable du meilleur avec la grâce de Dieu, comme on peut être coupable du pire sans la grâce de Dieu. Mais je dis simplement que quand on connaît Jésus, on a des atouts dans notre jeu. Des atouts à faire valoir qui sont comme de véritables jokers. On a la grâce de Dieu qui fait toute la différence. Tenir la route dans un monde en déroute. Timothée, tu vis dans un monde en déroute. Et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Timothée, plus que jamais, prêche l'évangile, plante le drapeau, sois un témoin de la lumière dans ce monde de ténèbres dans lequel tu vis. Timothée, aie le courage de payer le prix, de souffrir pour l'évangile. Et puis, Timothée, tu peux suivre mon exemple, le modèle que je te laisse. Par la grâce de Dieu, il est possible de bien terminer sa course dans ce monde en déroute et de sortir par la grande porte au point de pouvoir dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et maintenant la couronne, j'ai achevé la course et maintenant la couronne de justice m'est réservée ainsi qu'à tous ceux qui aiment le Seigneur. » Que Dieu vous bénisse. Amen.